des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Elisabeth Antebi.
Rayon gamma, facteur epsilon. Nous recevons aujourd'hui un grand monsieur de l'astrophysique, Jean-Claude Pecker, qui est né en Champagne en 1923, on peut le dire, non ?
Oui, mais on peut le dire.
Oui, on peut le dire. Et nous allons tout de suite parler avec lui d'un des livres, je crois, qu'il a beaucoup aimé dans sa jeunesse, qui est le livre de Giono, vous m'avez dit.
Mais oui.
Qui s'appelle ?
La naissance de l'Odyssée. C'est un livre qui m'a ouvert personnellement au grec. Je pense que la personne qui me l'a lu, c'était un de mes professeurs de 5e. Donc juste avant qu'on fasse le grec. Dans le lycée d'autrefois, on commençait le grec en 4e. Alors lui, c'est un prof de 5e qui nous a lu La naissance de l'Odyssée. Et c'était un enchantement. C'est l'histoire d'Ulysse, qui est un pauvre type qui arrive perdu en Grèce, et puis qui apprend qu'il a eu des aventures extraordinaires. Et chemin faisant, il se reconstruit, l'Ulysse d'Homère. Et il arrive à Ithaque. Bon. C'est un livre merveilleux.
Et alors après, ça vous a fait lire celui d'Homère ?
Ah ben bien sûr. Non mais ça, oui. J'avais déjà commencé à le lire un petit peu. Mais pas dans le texte. Non, après j'ai lu Homère dans le texte.
Oui, sûr. Parce qu'alors vous êtes au confluent des deux cultures par votre naissance même, si je puis dire, puisque je crois que votre père était plutôt orienté science et votre maman littérature.
Exactement. Mon père était un scientifique et ma mère une littéraire. C'est très juste.
Oui, et donc tout petit, d'ailleurs vous dites une chose très jolie. Mes souvenirs d'enfance, aussi loin que je puisse remonter, mettent l'astronomie au cœur de mes rêves. Mon père était un scientifique, ma mère littéraire. Le ciel était, entre Voltaire et Einstein, un carrefour des influences.
Oui. Alors, et en plus, on peut dire un autre texte qui m'a beaucoup influencé à cette époque-là, et qui est profondément grec, si j'ose dire, c'est la prière sur l'Acropole de Renan. Ma mère considérait que c'était l'un des plus beaux textes de la langue française. Et
c'est un très beau texte.
C'est un très beau texte.
Qu'on ne relit
le
plus.
Le linceul de pourpre où dorment les dieux morts, c'était, ça m'enchantait.
Vous en connaissez d'autres passages ?
Non. Ah oui, au début, toi seule est belle, etc. Non, mais je...
Bon, alors, est-ce que, au fond, on peut être un scientifique accompli sans la dimension littéraire ?
Oui, je crois que oui. Je crois que oui, mais je le regretterais.
Mais vous ne l'êtes pas, d'ailleurs. Donc, vous ne l'êtes pas, je veux dire, pas le scientifique accompli, mais
non,
vous avez la dimension
littéraire.
Comment
je ne suis pas un scientifique accompli ?
Non, mais je suis un scientifique accompli. Je veux dire que vous êtes un scientifique accompli, mais que vous avez aussi la dimension littéraire.
Oui, non, ce que je veux dire, c'est que dans ma science, ou dans la science des autres, le fait qu'on ait été plus ou moins littéraire, qu'on ait eu des aspirations plus ou moins littéraires, je crois que ça n'entre guère en jeu. Peut-être un tout petit peu, un tout petit peu. Vous savez, par exemple, on se sent à l'aise, nous autres astronomes, astrophysiciens, nous rencontrons constamment des mots qui sont dérivés du grec. Eh bien, il y a des gens qui ne savent pas le grec font des contresens en les utilisant.
Vous voyez.
Constamment. Le périhélie, par exemple, le périhélie de Mercure, le périhélie,
autour.
Oui, mais autour, mais proche.
Proche du soleil.
Et hélie, c'est le soleil autour. Le périhélie, c'est le point le plus proche auquel la Terre que la Terre atteint quand elle se promène autour du Soleil.
Bah, la démarche même, si nous faisions cette émission aussi, c'est que la démarche même de curiosité est héritée des Grecs. C'est-à-dire que dans aucune autre civilisation, vous n'avez même l'histoire, puisque vous aimez le Soleil, de Phaéton qui emprunte pour faire une expérience finalement.
Oui, bien sûr.
Les rênes
et Icare,
du char et de son père, le Soleil.
Icare, ceci dit, ça n'a pas été très heureux ni pour l'un ni pour l'autre.
Non, parce que quand on approche du Soleil, évidemment, on se brûle.
Voilà, nous on espère ne pas se brûler en approchant trop du Soleil.
Oui, mais enfin, vous avez la curiosité,
on a la curiosité, oui.
Et puis, nous parlons du feu, la fusion, la fission, etc.
Et puis la maïeutique héritée de Platon quand même.
Voilà.
Socrate. C'est quand même une méthode de pensée qui n'existe que dans la tradition grecque.
Voilà.
Et il faut voir aussi comment l'histoire des sciences s'est promenée de la Grèce aux temps actuels en escamotant complètement le début du christianisme, qui l'aurait plutôt freiné.
Oui, c'est vrai, oui.
Les Grecs sont arrivés chez nous par l'intermédiaire des Arabes, traduits en Espagne, et remonter vers le nord. Mais pendant ce temps-là, les chrétiens des monastères pataugeaient lamentablement. C'est vrai qu'il y a une culture grecque et que nous sommes, pour la science, beaucoup plus proches de la culture grecque que de la culture médiévale.
Alors, vous m'avez dit à un moment donné que, malheureusement, nous n'avions, ça a été une révélation pour moi, la France n'a qu'une seule ville grecque, à votre avis.
Oh, j'en connais une, en tout cas, qui pour moi est la seule, je me trompe peut-être, je ne suis pas infaillible.
C'est laquelle ?
Sète, c'est une ville extraordinaire, c'est une ville que j'adore.
La ville de Brassens.
La ville de pour moi c'était depuis beaucoup plus longtemps la ville de Valérie. Vous connaissez ce poème de Valérie ? Plus que seul au bord de la mer, je me livre comme une vague à la transmutation monotone de l'eau en l'eau et de moi en moi. C'est pas mal. Oui, Valérie. Non, mais la Grèce, parce que c'est une des rares villes où la mer pénètre complètement la ville. Où qu'on soit dans cette ville, on est dans la mer. Ou qu'on soit sur la mer, on est dans la ville. C'est extraordinaire.
C'est dans ce sens-là, c'est-à-dire que vous êtes un peu comme le général Gallois qui dit toujours que si la Grèce a eu la civilisation qu'on lui connaît, c'est parce qu'il n'y a que des échancrures de mer.
Je pense, c'est des îles. Je pense, les voyages en mer sont finalement plus faciles que les voyages sur terre. Le relie plus, on se lie par la mer, on s'écarte par les montagnes.
Toujours votre Ulysse.
Toujours mon Ulysse, un petit peu. Oui, bien sûr, Ulysse est un texte fondateur. L'Odyssée est un texte fondateur, c'est sûr.
Donc vous
mais
avez...
Pour revenir à Sète, je peux vous raconter une histoire qui est typiquement grecque. Je me suis un jour trouvé à Sète en train de... Pendant un temps, j'ai dirigé l'Observatoire de Nice et j'allais souvent au Pic du Midi, dans les Pyrénées. Et Sète était naturellement ma ville-étape entre les deux. Évidemment, ça s'imposait. Donc je couche à 7, je me balade dans les rues le soir, après avoir mangé des moules farcies, c'est une grande spécialité de 7. Et puis je vais dans un petit bistrot quelconque, dans le quartier des pêcheurs. J'ai découvert très vite que c'était un petit bistrot pas très honnête, où il y avait du trafic de beaucoup de choses, notamment de la chair fraîche. Et au pas tellement fraîche. Et le débat s'est engagé entre la patronne, les filles et les gens qui, comme moi, buvaient une bière au comptoir. Alors, il y en a un qui a dit « Ah, moi, je suis étudiant à Montpellier. » Les filles, « Ah bon, et vous, monsieur ? » ?»« Ah, moi, je suis astronome. » »« Ah, le ciel !» Et alors, un grand débat s'est lancé autour du ciel. Et ça a été un contrepoint assez extraordinaire. D'un côté, le ciel, pour elle, c'était Dieu. Est-ce que vous croyez en Dieu ? Est-ce que le ciel ? Bon. Mais en même temps, la patronne reprochait à l'une d'entre elles de s'être fait faucher la veille une petite culotte par un marin américain. On peut dire ça à la radio, oui, c'est pas méchant.
Absolument, c'est Aphrodite.
Mais c'est Eros, grec. C'est grec.
Aphrodite. Et
ce contrepoint extraordinaire.
La pornographie pornait.
Mais bien sûr. Mais ce contrepoint entre la petite culotte et Dieu, c'était extraordinaire, c'était grec.
Oui, parce
c'était
que
la, totalement
Dieu
grec. C'était les marins d'Ulysse en train d'aborder dans les bistrots de chez Circé.
Ça, c'est la Méditerranée aussi.
Oui, c'est la Méditerranée.
C'est beaucoup de la Méditerranée.
C'est beaucoup de la Méditerranée.
Oui. Mais alors, vous-même...
Mais la Méditerranée, c'est la Grèce.
La Méditerranée, c'est beaucoup la Grèce. Ça a été aussi Rome, parce qu'on peut dire que le Maghreb est plus irrigué, me semble-t-il, par Rome.
Ça a été les conquérants de Rome, ça a été les militaires de Rome. Oui. Tandis que ça a été les philosophes de Grèce, c'est pas tout à fait pareil.
Absolument. Et c'est la philosophie qui a donné, d'ailleurs, qui a enfanté la science, au fond.
Oui, bien sûr.
D'où cette séparation qui me semble toujours un peu bizarre entre est-ce qu'on peut parler physique si on n'a pas la métaphysique ? Enfin,
beaucoup de gens le font.
Oui, mais surtout... Oui, mais est-ce qu'il le faut bien ? Et surtout pour les Grecs présocratiques, parce qu'au fond, j'ai pensé à votre métier qui est l'astronomie.
Oui.
Vous savez que le cosmos signifiait la parure.
Oui, bien sûr, c'est pythagoricien, bien sûr.
Voilà, et c'est même Parménide, Héraclite pensait que le cosmos sous la forme d'une parure.
Même avant, Anaximandre.
C'est vrai, c'est vrai. Mais alors c'était de Milet, c'est-à-dire c'était les Asiatiques plutôt.
Oui,
les questionneurs sont arrivés plus tard. D'abord, on a commencé par contempler le cosmos et par en tirer une leçon.
Ah, pas tout à fait. Pas tout à fait. Regardez, dans l'héritage pythagoricien très proche, vous avez Philolaos qui a quand même essayé de construire un système. Et un système extrêmement intéressant dont on a gardé beaucoup de traces plus tard. C'était un système presque héliocentrique.
Lequel ? Excusez mon ignorance.
Philolaos était un pythagoricien qui a suivi Pythagore à très peu d'années, enfin je crois qu'il était même contemporain sur la fin de la vie de Pythagore, et il a construit un système où la Terre, il y avait une antiterre qui tournait de l'autre côté du Soleil, et qu'on ne voyait jamais. Donc c'était un système extrêmement curieux, mais qui représentait, pas très bien, mais enfin, en première approximation, c'est bien le système solaire. Alors ça a été élaboré, il y a eu Anaximandre, il y a eu bon, tous les ces essais qui ont présocratiques, jusqu'à Platon, qui lui-même a fait un système qui était très honorable et qui a été perfectionné ensuite.
Alors vous-même, vous dites que c'est à travers les livres que vous vous êtes intéressé à l'astronomie et à l'astrophysique.
Ah oui.
D'abord les livres. Qu'est-ce qui vous a, comme disent les tricotins d'aujourd'hui, interpellé?
Oh, presque par hasard.
Oui.
Parce qu'au fond, au fond de moi, je suis beaucoup plus littéraire.
Ben, c'est ce qui me semble.
Au fond de moi, j'aurais suivi ma mère, j'aurais écrit des romans.
C'est joli ça, pour la définition de la littérature.
Oui.
J'aurais suivi ma mère.
J'aurais suivi ma mère, mais c'est vrai. Et elle écrivait beaucoup.
Ta langue maternelle.
Bien. Oui, bien sûr. Et non, un jour, quand j'ai eu 10 ans, j'ai encore ce livre, et donc je peux me rappeler exactement la date, puisqu'elle est marquée sur la première page, à Jean-Claude pour son 10e anniversaire. Une amie de ma mère m'a offert un livre qui était Le Ciel, de Berger et Rudeau, qui est un livre que personne ne connaît plus maintenant. C'est un gros livre édité par Larousse, ouais, ce gros machin, genre encyclopédie à l'ancienne, avec des clichés très mauvais.
Avec la grosse couverture verte.
La grosse couverture vert-noir, oui. C'était un peu sinistre. Puis tout en noir et blanc, et des photos à l'ancienne, un papier glacé, mal glacé. C'était quand je le vois maintenant, je l'ai encore ce livre. Bien sûr, je l'ai gardé. C'est et je l'ai feuilleté, je l'ai lu, pendant 20 ans, même encore, à 10 ans, je ne fumais pas. Mais quand je l'ouvre maintenant, encore il y a des cendres de cigarettes qui tombent parce que je l'ai lu en fumant beaucoup plus tard. c'était un livre extrêmement stimulant. Mmh. Un gros livre, il y avait tout dedans. Mmh. Alors, j'ai appris beaucoup de choses.
Et alors après, vous avez rencontré des gens. Après, ça a été des influences plus...
Oui, alors ça, disons que...
D'abord, vous avez fait des études, évidemment, mais
non,
enfin,
bien
vous
sûr,
avez rencontré des gens.
C'est vrai que quand on démarre au lycée, l'astronomie, on n'en connaît rien.
Vous étiez à quel lycée, d'ailleurs?
J'étais au lycée Montaigne de Bordeaux.
Ah, voilà.
À l'annexe du lycée Michel Montaigne de Bordeaux, qui était un petit lycée, le lycée de Longchamp, un lycée assez élitiste, je dirais. C'était la bonne société bordelaise qui envoyait ses enfants au lycée de Longchamp. Et puis, c'est dans un quartier assez huppé. Et c'était un lycée sympathique. D'ailleurs, les professeurs vous lisaient la naissance de l'Odyssée. Ça ne peut pas être un lycée.
Ah oui, oui,
lycée.
Ça c'est formidable, oui.
Bon, là, on n'apprend rien de l'astronomie quand on est au lycée. Il n'y a pas un mot d'astronomie jusqu'au second bac.
Ben non, oui.
Il y a un cours qui s'appelle cosmographie, autrefois, je parle d'autrefois, un cours qui s'appelait cosmographie en mathélème.
Et oui, parce que vous avez eu le bac mathélème et le bac philo, ce qui est relativement rare.
Non, non, à l'époque, tout le monde faisait ça. On organisait les séances de bac pour qu'ils n'aient pas lieu en même temps, pour qu'ils ne soient pas simultanés.
Et en plus, vous étiez lauréat du concours général de dessin.
De dessin, oui. On fait ce qu'on peut.
C'est un homme doué. Bon, alors donc à Mathélem, on faisait de la cosmographie.
On faisait de la cosmographie qui n'est pas de l'astronomie, qui est simplement une plongée dans l'histoire de l'héliocentrisme. En gros, on se replonge un peu dans Kepler, on ne va pas jusqu'à Newton. C'est vraiment rien. Et les profs, ils me détestent ça parce qu'ils ne sont pas formés. Et les profs de maths, donc, qui sont chargés de cet enseignement, ça ne les intéresse pas du tout, l'astronomie. Donc, on ne fait pas l'astronomie. Alors, quand j'ai passé l'oral du premier bac, j'avais lu mon livre de Larousse, Le Ciel, et le type qui m'a fait passer, dont j'oublie le nom, bien entendu, qui m'a fait passer l'oral de physique, j'ai fait un bon oral, apparemment, et il m'a dit, qu'est-ce que vous ferez plus tard? Alors, j'ai dit, je veux entrer à l'école normale et je veux faire de l'astrophysique. Voilà. Donc à ce moment-là, je ne savais rien sur l'astrophysique, ni sur l'école normale d'ailleurs.
Et après, ça ne vous a pas déçu? D'ailleurs, c'était pendant la guerre, il y a eu toute
l'histoire. Oui, oui, il y a eu la guerre.
Enfin,
vous parle de 1939, là.
Oui, oui, d'accord. Donc, vous arrivez, je fais un saut dans le temps, vous rentrez à l'école normale supérieure.
Oui, oui, alors j'essaye de faire de la physique.
Vous êtes agrégé, vous essayez, vous êtes agrégé
non,
quand même.
Non, je suis agrégé.
Moi, je veux bien.
Oui, oui, non, je suis physicien. En sortant de l'école, j'ai souhaité aller faire de la physique chez M. Kassler, prix Nobel.
Oui.
Qui était un ami de mes parents et qui m'avait beaucoup aidé pendant la guerre. C'est un homme absolument délicieux à qui je dois énormément, sur tous les plans. Donc je vais voir Kassler, je lui dis « Monsieur, j'aimerais bien faire ma thèse sous votre direction. » Après la grecque. Il me dit « Oh mon petit Jean-Claude, vous savez, moi j'ai plus d'idées. » C'est après qu'il a eu celles qui lui ont valu le prix Nobel. « Moi j'ai plus d'idées, alors, oh mon petit Jean-Claude, moi je crois que c'est pas une bonne idée, vous devriez aller plutôt faire de l'astrophysique. C'est très à la mode en ce moment, l'astrophysique, ça se développe très bien. Vous devriez aller faire de l'astrophysique avec Challonge ou avec Schatzmann. » Ça tombait en plein dans mes vues antérieure. Oui. Donc, évidemment, j'ai sauté là-dessus. Il voulait pas, Kassler veut pas de moi, tant pis, mais l'astrophysique, quelle bonne idée. Et donc, je suis allé voir Challonge et Schatzmann, et j'ai fait ma thèse sous la direction de Schatzmann, en fait, et nominale de Challonge. Parce que Schatzmann était à peine plus vieux que moi, il n'avait pas le droit, légalement, de diriger une thèse.
Nous allons retrouver M. Pecker dans quelques minutes, après la petite pause. Rayon gamma facteur epsilon, nous nous retrouvons avec grand astronome, le promeneur du ciel, qui est Jean-Claude Pecker. Alors avant d'être promeneur du ciel, vous êtes quand même promeneur sur la Terre. Oui. Et vous avez qu'est-ce qui vous saisit en Grèce? Est-ce que la Grèce d'ailleurs vous
intéresse? Je peux vous parler de mon premier contact physique avec la Grèce. Bon, la Grèce, quand j'étais jeune, c'était un rêve. Puis il y a eu la guerre. Pendant la guerre, on ne voyageait pas. Même avant-guerre, on ne voyageait pas. Non, en 1952, il y a eu une éclipse de soleil totale à Khartoum, c'est-à-dire dans le Soudan anglo, qui était alors anglo-égyptien. Donc nous avons monté une expédition française pour aller observer l'éclipse, et bien sûr, ça, on allait en bateau et pas en avion. Donc, escale, Athènes. Pour moi qui avais lu la prière sur l'Acropole, évidemment, il était impératif d'aller voir l'Acropole. Et alors... La première impression a été une abominable déception. On arrive au Pirée, on voit des tas de voitures qui circulent, des gens qui crient, des tramways qui marchent. Il y avait des tramways à cette époque, je ne sais pas s'il y en a maintenant, je ne me souviens plus. Et alors bon, on prend un tramway, nous étions trois. On prend un tramway, on aboutit à cette petite église byzantine dont j'ai oublié le nom, mais qui est ravissante, toute petite au centre d'Athènes. Et le tramway aboutissait tout près de là. Et puis on monte. Et là, on nous demande le chemin quelque part, l'Acropole c'est par là. On monte, puis alors les rues devenaient de plus en plus étroites, de plus en plus sales. Il y avait au milieu de la rue une espèce de rigole où coulait je ne sais trop quoi, ou plus exactement je sais bien quoi. Et il y avait des femmes de plus en plus grosses, de plus en plus sales, de plus en plus laides, avec du linge qui pendait aux fenêtres, de plus en plus crasseux. Et puis au détour d'une rue, pof, on tombe sur l'Acropole. Et ça, ça a été l'éblouissement. Et c'était beau. En plein soleil, on sortait de l'ombre, on arrivait vers cette Acropole ensoleillée. Ça a été magnifique. Là, j'ai été. Et alors l'Acropole, pour moi, tout le monde dit l'Acropole, c'est un beau monument, c'est un bel endroit, le Parthénon, c'est splendide, d'accord. Mais il y a aussi les pyramides, il y a aussi le Taj Mahal, il y a aussi. Mais
oui, quelle est la propriété au fond du caractère grec du paysage grec?
Ah, mais c'est humain. C'est humain. Voilà, quand vous voyez les pyramides et quand vous voyez le Taj Mahal, vous voyez des bâtiments qui sont des cimetières ou des tombes ou des tombeaux. Quand vous arrivez à l'Acropole, rien de cela. Vous imaginez les gens.
Vous voyez des jolies femmes, les cariatides.
On voit des jolies femmes, les cariatides, mais enfin, on imagine la vie sur les marges du propylé, des propylés. C'est extraordinaire. Et pourquoi est-ce que c'est si vivant, l'acropole? Moi, j'analyse ça un peu plus. C'est totalement dissymétrique. Quand vous arrivez, vous avez la Victoire Aptère qui est sur la droite, par derrière vous avez le Parthénon, à gauche vous avez les cariatides...
Les propylées.
Les rectéones.
Les rectéones.
Oui. Devant vous, vous avez les propylées, vous montez. C'est dissymétrique. Allez donc au Taj Mahal. C'est abominablement symétrique. Ça me rappelle une de mes femmes de ménage qui voulait toujours, sur une petite étagère dans ma salle de bain, ranger les bouteilles. Mais alors, elle mettait la grosse bouteille au milieu, puis de chaque côté, symétrique, deux bouteilles moyennes, puis symétrique, deux petites bouteilles. C'était la symétrie. C'est horrible, la symétrie.
Parole de scientifique.
Non, parole d'amoureux de l'homme, je crois.
Oui, alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que l'humain, justement, a donné, au fond, la philosophie de l'humain à donner la science, parce que c'est pour, sinon améliorer la condition humaine, du moins pour explorer la condition humaine.
C'est certainement...
Aucune autre civilisation.
Ou pour valoriser la condition humaine. Cette idée de pénétrer par la connaissance le monde qui nous entoure, c'est s'approprier ce monde. C'est se l'approprier, mais c'est aussi magnifier la condition humaine par les connaissances qu'elle acquiert.
Oui, donc remplacer un peu les dieux, c'est-à-dire ailleurs ce sont les dieux.
Oui, ailleurs ce sont peut-être les dieux, je ne sais pas, les dieux m'ont jamais beaucoup intéressé.
C'est le cher Voltaire de votre jeunesse.
Oui, le cher Voltaire de ma jeunesse, exactement. C'est un autre beau texte, hein. Les textes de Voltaire, il y en a de beaux aussi.
Oui,
et alors... La prière à Dieu sur la tolérance.
Ah, ça c'est magnifique.
Ah,
oui.
C'est un des beaux textes. Oui. Ma mère considérait les deux beaux textes de la langue française pour elle, c'était la prière à Dieu sur la tolérance et la prière sur l'acropole de Renan.
Eh bien, pour un mécréant, vous aimez bien les prières.
Oui, certes, mais ce ne sont pas des prières très...
Ah ben, ce sont des prières. Ce sont des prières. Et alors, il y a Rome, alors en revanche, suscite votre ire.
Oui, écoutez, d'abord la ville de Rome, que je connais mal parce que j'ai jamais voulu y aller beaucoup, c'est une ville que je n'aime pas par rapport à Florence. J'adore Florence, Florence est une jolie ville, Florence a une unité. Rome n'a aucune unité, il y a tout dans Rome, c'est... Je sais pas, j'aime pas Rome. En plus, il y a le pape, j'aime pas le pape. Mais
et la civilisation romaine?
Ben, la civilisation romaine telle que je la vois, Jules César c'était un militaire, Cicéron c'était un phraseur, excusez-moi monsieur Cicéron, mais enfin, je dis ce que je pense. Non, la grande poésie grecque n'a pas d'équivalent, l'Énéide c'est bien pâle à côté de l'Odyssée quand même.
Ah, pourtant Giono l'aimait aussi.
Oui, non, mais certes, les géorgiques, les bucoliques, c'est pas mal. Puis il y a de bons poètes latins, mais il n'y a pas un théâtre comparable à celui de Sophocle.
Bien sûr.
Il n'y a rien.
Ni Échille, ni Euripide.
Non, non. Mais Aristophane, bon, il y a Plaute, c'est pas mal Plaute. Ça ne vaut pas Aristophane, de loin. Il n'y a pas d'équivalent de Platon. Non.
J'adore quand un scientifique défend avec autant de passion la littérature.
Mais la littérature grecque, enfin je veux dire la Grèce là.
Alors donc vous devez vous entendre terriblement bien avec Jacqueline de Romilly.
Ah, je m'entends très bien avec elle, oui.
Mais vous n'aimez pas Thucydide, vous lui faites peine.
Oui, mais nous parlons d'Homère, nous parlons de l'Odyssée. Le sixième livre d'Odyssée, c'est un livre superbe.
Ah voilà les conversations de deux académiciens.
Mais bien sûr, je me rappelle lui avoir expliqué comment quand j'étais en classe de seconde, j'avais dépioté le sixième livre, c'est le livre de Nausicaa, parce qu'il y avait des verbes grecs qui avaient une construction particulièrement extraordinaire, je m'en souviens encore, c'était ek prorein. C'était pour décrire l'eau qui sortait de dessous les jambes de Nausicaa, qui coulait en même temps, et que c'était un verbe magnifique. Mmh. J'avais fait une heure de dissertation sur cette histoire-là quand j'étais en classe de seconde. Mais non, c'est beau tout ça, on parle de ça.
Est-ce que c'est ça aussi qui vous a donné le goût de la vulgarisation? Parce que j'ai lu quand même quelques-uns de vos livres, et ces livres sont d'une clarté très grande sur des sujets qui sont quand même un peu difficiles.
Oui, c'est vrai. Je ne crois pas que ce soit lié.
C'est quand même une manière de simplifier les choses, de trouver le mot juste, ce que vous disiez tout
à
l'heure.
Oui, c'est vrai que dans un certain... Est-ce que Platon, par exemple, quand il parlait de science, vulgarisait? Je ne crois pas, parce que
le mot français n'est pas très joli, oui.
Non, mais popularisé. Oui. Il s'adressait à des philosophes quand même. je sais bien que lorsque la maïeutique, c'est bien Socrate qui essaye de faire passer des idées
sous une forme extrêmement simple,
à travers une interrogation qu'il suscite
et une argumentation.
Donc il y a bien en effet une tentation de popularisation dans la méthode socratique. Je ne crois pas que ce soit lié pour moi. Je pense que j'ai simplement réagi au besoin de le faire, parce que je constate que la culture scientifique est extrêmement mal distribuée en France. Je ne sais pas comment c'est ailleurs, mais je crois que c'est aussi mal, et que par conséquent il y a un besoin. Il est quand même ahurissant de considérer que n'importe qui connaît connaît suffisamment bien Shakespeare ou Victor Hugo, mais aucun d'entre eux ne pourra dire le moindre mot sur Newton ou sur Einstein. Oh. Très peu. Et on dira Einstein, ah oui, tout est relatif, ce qui est idiot. C'est pas du tout ça qu'Einstein a dit.
Non, mais je
ne sais
pas.
On dira Newton, ah oui, il y a une pomme. Bon, ce qui est idiot, il n'y a pas eu de pomme d'abord.
Non, mais la nature ne fait pas de saut. Langage mathématique. Tout s'écrit, la terrible phrase de Galilée, tout s'écrit en langage mathématique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette histoire de tout s'écrit en langage mathématique?
Je dirais que c'est vrai pour les sciences exactes, dites exactes. Je pense qu'en effet, tout ce que nous faisons en astrophysique peut s'écrire en termes mathématiques. Oui, c'est pas vrai en biologie, je ne crois pas. Encore que ça tend à devenir de plus en plus vrai.
Ceci vous dit, savez je ce me que disait Einstein pas. Quand on lui demandait, maître, est-ce que vous savez que tout, absolument tout, peut se réduire à des équations?
Oui.
Et il répondait, oui, mais c'est comme si vous me dites qu'une symphonie de Beethoven, c'est une succession d'intensités sonores.
Oui.
C'est vrai, mais vous ne saurez pas ce que c'est qu'une symphonie de Beethoven.
C'est vrai aussi, quand on a devant soi les équations, il faut encore les pénétrer.
Voilà.
Nous sommes bien d'accord. Ceci dit, ça se dit quand même en équation. Et c'est vrai aussi que la musique aboutit à des partitions.
Alors, il y a un mot que vous employez beaucoup, qui est le mot rêve.
Ah oui.
Oui, vous avez dit que vous aviez commencé à rêver sur l'astronomie.
Je rêve beaucoup.
Et vous rêvez beaucoup. Alors, que représente ce rêve dans l'exploration scientifique qui est la vôtre, au fond? Est-ce qu'il faut rêver?
Ah mais oui. Je pense qu'on rêve dès l'instant, bien sûr, dès l'instant qu'il y a un problème posé, on rêve à sa solution. Et la solution, elle est tout ce qu'on veut, elle est potentielle, elle est tout avant d'être formulée.
Donc elle arrive par le rêve.
Je crois que oui, elle arrive par une sorte de rêve qui mûrit peu à peu. On se promène dans le métro ou sur les quais de la Seine, on se dit on rêve. Au besoin, on tombe par terre, comme l'astronome, qui était un astrologue pour La Fontaine.
Eh bien, avec Monsieur Pecker, nous apprenons en effet que l'astronomie est une branche de la poésie.
Sans aucun doute.
Merci, Monsieur Pecker.
Merci à vous.
Post-scriptum.
Oui, je pensais à mes entretiens avec Jacqueline de Romilly. Un jour, je lui ai porté un livre que je gardais depuis fort longtemps, qui s'appelle Athènes. C'est un livre sur Athènes. Le livre est assez quelconque. Mais il y a une dédicace dessus, en grec. Je ne m'en souviens pas exactement, mais enfin, ça veut dire à celui qui a gagné les combats olympiques de grec. Et ça m'a été donné par mon prof de seconde. Toujours le même dont je parlais tout à l'heure. Le prof de seconde qui organisait, il adorait le grec, il organisait tous les samedis un concours qui était une Coupe Davis. Comme il ne parlait pas très bien anglais, il accentuait son accent à la Coupe Davis, la Coupe Davis des verbes grecs. C'est-à-dire qu'on se lançait un verbe. On était deux, il y avait des éliminatoires, il y avait des demi-finales, des finales. On était deux, et par exemple je disais « boulomai ». Alors l'autre disait... Première personne du présent de l'indicatif du verbe boulomaille. Alors, 15-0. Puis on continuait jusqu'à ce que quelqu'un tombe. Alors à ce moment-là, quand quelqu'un tombait, il y avait un point. Et finalement, on gagnait. Alors j'avais gagné la Coupe Davis des verbes grecs et j'en étais extrêmement fier. Inutile de dire que maintenant, je ne me souviens plus d'aucun verbe grec.
Mais Madame de Romilly doit être fière de vous.
Oh, ben, elle m'aime bien, je crois.
Merci, Monsieur Pecker.